Nous sommes le vendredi 22 mars 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Très content de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Au Sénégal, nouveau retrait d'un candidat à la présidentielle de ce dimanche. La situation sécuritaire est plus qu'alarmante au Burkina, déclare un responsable de l'ONU lors d'une visite à Ouagadougou. Au Kenya, des hôpitaux publics touchés par la grève des médecins. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, en Israël pour discuter de trêve à Gaza au moment où l'ONU doit se prononcer sur un cessez-le-feu immédiat. Au Sénégal, un deuxième candidat à la présidentielle, qui va avoir lieu dans 2 jours, a fait partie hier de son retrait du scrutin au profit de l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Désormais, ils sont donc 17 concurrents encore en lice sur les 19 au départ. Michel Joseph.
Je tiens à dire à mes militants, sympathisants au Sénégal, à l'Afrique, au monde entier, que moi, à Bipsi, je retire ma candidature pour soutenir Bassirou Diomaye Faye, dit Abipsi dans une vidéo se montrant face à la foule aux côtés de M. Faye. Abipsi, ancien ministre et proche d'Ousmane Sonko, guide politique de M. Faye et membre de la coalition d'opposition Yewi Askanoui, Libérons le peuple, créée en 2021 autour de M. Sonko. C'est le deuxième désistement en 2 jours au profit de Bassirou Diomaye Faye, après celui de Cheikh Tidiane Diaye, mercredi. Les deux hommes n'étaient pas considérés comme devant peser lourd dans l'élection. La constitution du Sénégal dit qu'en cas de retrait d'un des candidats avant le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice.
La situation sécuritaire au Burkina Faso est plus qu'alarmante, a déclaré hier à Ouagadougou Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits humains, à l'issue d'une rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par le coup d'État de 2022. Sur le plan humanitaire, la souffrance de millions de Burkinabés est déchirante, a ajouté Volker Turk. Les groupes armés sont responsables de la grande majorité des violations commises contre les civils, a encore déclaré le haut commissaire, avant d'affirmer que les rapports faisant état de violations graves commises par l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et de mesures correctives. Il a néanmoins dit comprendre parfaitement les graves défis auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité. Je suis encouragé par les déclarations selon lesquelles des mesures sont prises pour veiller à ce que leur comportement soit pleinement conforme au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme, a indiqué Volker Turk. Au Kenya, certains hôpitaux publics ont tourné au ralenti hier, un peu plus d'une semaine après le début d'une grève nationale des médecins qui réclament de meilleures conditions de travail et la revalorisation des salaires. Nanit Talani.
Le gouvernement n'a montré aucune volonté de sortir de ce désordre, a déclaré Denis Miskela, secrétaire général adjoint du syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya. Nous ne retournerons pas au travail tant que nos revendications ne seront pas satisfaites, a-t-il affirmé. Le mouvement est lancé depuis le 13 mars. Les médecins ont prévu de manifester aujourd'hui à Nairobi. Un tribunal a ordonné la semaine dernière la suspension de la grève et appelé à des négociations, mais le syndicat a annoncé poursuivre son mouvement. Les médecins contestent une décision du gouvernement visant à réduire les salaires des internes et à repousser l'âge à la retraite. Le gouvernement a menacé de recruter des médecins au chômage pour remplacer les grévistes. La ministre de la Santé, Suzanne Nakushima, dit avoir demandé à 2 grands hôpitaux d'embaucher des remplaçants pour pallier l'absence des grévistes. Davdi Atela, le secrétaire général du syndicat, a dénoncé les menaces de la ministre. « Plus il profère des menaces, plus la grève sera longue », a-t-il déclaré. En 2017, le même syndicat a été à l'initiative d'une grève qui avait duré 100 jours pour réclamer une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail dans les hôpitaux publics.
Également dans l'actualité, l'Algérie fait état de la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain, 3 mois avant la date initialement prévue. Dili Diko.
Il a été décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024, a indiqué la présidence à l'issue d'une réunion présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, en présence de son premier ministre, des chefs des deux chambres du Parlement, du chef de l'état-major de l'armée et du président de la Cour constitutionnelle. Le corps électoral sera convoqué le 8 juin 2024, a ajouté le communiqué. La dernière élection présidentielle, remportée par M. Tebboune avec 58% des voix, marquée par une forte abstention, a eu lieu le 12 décembre 2019. Il a succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019, sous la pression de l'armée et du Hirak, un mouvement de contestation. Le quinquennat de M. Tebboune doit expirer en décembre prochain. Aucune raison n'a été avancée pour expliquer la tenue de cette élection anticipée. M. Tebboune, 78 ans, n'a pas encore annoncé s'il va briguer un second mandat. Il a été hospitalisé pendant plusieurs mois en Allemagne après avoir contracté le Covid fin 2020.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, le secrétaire d'État américain se rend en Israël ce vendredi pour tenter d'arracher un accord de trêve à Gaza au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution des États-Unis appelant à un cessez-le-feu immédiat dans le territoire ravagé par la guerre. Le fossé se réduit dans les pourparlers pour une trêve liée à une libération d'otages. S'il est difficile de parvenir à un accord, cela est toujours possible, a déclaré Anthony Blinken, qui a rencontré hier au Caire le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi avant une réunion avec les patrons de la diplomatie de 5 pays arabes dans le cadre de sa 6e tournée au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. Le gouvernement américain a assigné en justice le géant Apple pour pratiques monopolistiques liées à l'iPhone et aux contraintes fixées par le groupe californien aux développeurs d'applications. Alexandrine Rolognon.
Toutes les décisions prises par Apple ont établi et renforcé les défenses protégeant son monopole dans le domaine des smartphones, fait valoir le gouvernement américain, associé au procureur de 15 États et à celui de la capitale fédérale, Washington. Apple a lésé les utilisateurs, les développeurs qui ont contribué à faire de l'iPhone ce qu'il est aujourd'hui, poursuit le document de l'assignation. Si cette situation n'est pas remise en cause, Apple va continuer à solidifier son monopole sur les smartphones, selon le ministre de la Justice, Merrick Garland. Il a aussi souligné que sur le système de messagerie d'Apple iMessage, les conversations avec des smartphones d'autres marques ne sont pas cryptées, contrairement aux échanges entre deux iPhones. Le gouvernement accuse Apple d'avoir volontairement empêché l'utilisation de ses montres connectées avec d'autres appareils que l'iPhone. Le gouvernement Biden a lancé une offensive contre ce qu'il considère comme des pratiques anticoncurrentielles. Il a déjà engagé un procès contre Google, accusé d'entretenir un monopole sur le marché des moteurs de recherche. L'audience doit reprendre au printemps et une décision est attendue d'ici la fin de l'année.
Le compte à rebours est lancé. Les élus du Congrès américain vont tenter par tous les moyens d'adopter avant la fin de la semaine le budget fédéral bouclé hier et écarter ainsi la menace d'une paralysie de l'administration. Les négociateurs de la Maison-Blanche, de la Chambre des représentants et du Sénat ont dévoilé un texte de 1 200 milliards de dollars censé financer l'administration américaine jusqu'à fin septembre. Le texte doit désormais être approuvé par les deux chambres du Congrès américain avant ce vendredi soir, pour éviter un assèchement soudain des finances de l'État. En Haïti, les gangs armés tentent encore leur emprise sur la capitale Port-au-Prince, avertit l'ONU au moment où les pourparlers en vue de former des autorités de transition à la tête du pays semblent en passe d'aboutir. Au cours des derniers jours, les gangs ont avancé dans de nouvelles zones de la capitale, a déclaré hier Ulrika Richardson, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le pays, lors d'un point de presse presse vidéo depuis Haïti, décrivant une situation extrêmement alarmante. Washington indique avoir évacué 90 ressortissants américains hier. L'Australie souligne que l'accord inédit visant à développer les sous-marins nucléaires AUKUS avec le Royaume-Uni et les États-Unis va se concrétiser, malgré les craintes croissantes concernant les coûts, les capacités et le retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les trois gouvernements concernés travaillent à un rythme soutenu pour y parvenir, a déclaré aujourd'hui Richard Marles, le ministre australien de la Défense. Les trois alliés se sont engagés à renforcer conjointement leur puissance militaire afin de freiner l'expansion militaire chinoise dans la région Asie-Pacifique. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nami Talani.
Au Gabon, un feu s'est déclaré mercredi sur la plateforme pétrolière Bepuna de la compagnie franco-britannique Perenco Oil and Gas au large du terminal de Tchatamba sur la côte sud-est du pays, a annoncé jeudi le ministre du pétrole et du gaz, Marcel Abeke. Au moins 4 personnes ont péri et une cinquième est portée disparue. M. Abeke assure que toute la lumière sera faite sur les circonstances qui ont conduit à la plus grave tragédie dans l'histoire de l'exploitation pétrolière du Gabon. La société d'Abu Dhabi, la holding IHC, se dit intéressée par l'acquisition de la mine de cuivre de Lubambe en Zambie que la société chinoise JHCX a déjà accepté d'acheter et dans laquelle Harare détient des parts de 20%. La holding IHC est devenue l'investisseur privilégié du gouvernement zambien pour les mines de Mupani devant les sociétés sud-africaines Sibanye Stillwater et chinoise Zijin Mining, présélectionnées pour ses actifs. Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocation de chômage a baissé de manière inattendue de 2000 la semaine dernière, suggérant que la croissance de l'emploi est restée forte en mars, a déclaré le département du travail jeudi. L'économie américaine a créé 275 000 emplois en février. Pour terminer, le prix de l'or a battu ce jeudi un nouveau record historique à plus de 2 200 $ l'once, dopé par la perspective de plusieurs baisses de taux cette année, selon l'agence Bloomberg. Depuis mi-février, le cours du métal précieux a bondi de près de 12%.
À présent, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
De nombreux matchs amicaux sur le continent ce vendredi.
Oui, le Sénégal fait face au Gabon à Amiens en France avant son match contre le Bénin le 26. Le Ghana va défier le vice-champion d'Afrique en titre, le Nigeria à Marrakech. L'Algérie reçoit la Bolivie et l'Afrique du Sud à Alger. Son voisin marocain accueille l'Angola à domicile. L'Égypte du nouveau sélectionneur Oussama Sam affronte la Nouvelle-Zélande. Madagascar joue contre le Burundi. Le Burkina Faso va s'opposer à la Libye. Le Botswana au Rwanda. La Mauritanie au Mali. Le Niger au Togo. L'Ouganda au Comores hier. Toujours dans le cadre de ces matchs amicaux, le Lesotho s'est imposé face à l'Éthiopie 2-1.
D'autres pays africains, eux, disputent le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025.
C'est le cas de l'Eswatini qui a pris une sérieuse option pour le tour suivant, battant le Libéria 3-0 à El Jadida au Maroc. À Marrakech, Djibouti s'est incliné 0-2 devant le Libéria. Toujours dans le royaume chérifien, à Berkane, Sao Tomé et Principe fait face au Soudan du Sud ce vendredi. À Yaoundé, au Cameroun, le Tchad affronte l'île Maurice. Les matchs retour auront lieu le 26 mars. Les vainqueurs de cette double confrontation se qualifient pour la phase de groupe des éliminatoires qui réunit 48 équipes. Les matchs se déroulent sur des sites neutres parce que les équipes locales ne disposent pas d'un stade aux normes internationales ou pour des raisons de sécurité, comme le cas de la Somalie.
Le père de Neymar nie qu'il paiera la caution de Dani Alves.
Le père de la superstar du football brésilien dit qu'il ne s'est jamais engagé à prendre en charge le paiement d'une caution d'1 million d'euros pour la remise en liberté de l'ancien coéquipier de son fils Dani Alves, incarcéré en Espagne pour viol. Plusieurs médias espagnols affirmaient que Alves aurait de nouveau eu recours à l'aide financière de la famille de Neymar. Le père de la vedette brésilienne avait admis en janvier avoir versé 150 000 euros pour aider l'ex-latéral à payer ses frais d'avocat quelques semaines avant la condamnation de ce dernier à 4 ans et demi de prison. Mercredi, un tribunal de Barcelone a autorisé la remise en liberté de Dani Alves moyennant le paiement d'1 million d'euros dans l'attente de son jugement en appel, faute d'avoir payé cette caution avant l'heure limite quotidienne pour ce genre de démarche jeudi. Le Brésilien va rester au moins une nuit supplémentaire dans la prison où il est détenu depuis janvier 2023.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 22 mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. 7 millions de Sénégalais sont appelés ce dimanche à choisir entre le candidat du pouvoir, Amadou Ba, et 16 concurrents, un nouveau président. Deux prétendants se sont retirés ces deux derniers jours au profit de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, et ce, avant la fin de la campagne, ce vendredi. Anta Babacar Ngom est l'unique femme engagée dans cette bataille électorale. Que fait-elle pour convaincre les électeurs de son projet? Élément de réponse avec Blanche Alfanou.
Anta Babacar Ngom n'a plus que quelques heures pour convaincre les indécis et se faire connaître de tous les Sénégalais. La chef d'entreprise de 40 ans, patronne depuis 2015 de la plus grande entreprise agricole du pays, fondée par son père, Anta Babacar Ngom a pour ambition de briser les barrières et devenir la première présidente de son pays.
Je ne le vis pas mal, au contraire. Identifiez-moi comme la candidate des femmes, identifiez-moi comme la femme candidate, mais je l'assume pleinement. Par contre, je suis la candidate de tous les Sénégalais.
Son programme s'articule autour de la création d'emplois via l'aide au secteur privé, la protection de l'environnement, la gratuité des soins pour les plus vulnérables et une réforme du système éducatif avec des cours donnés dans les langues locales et non plus seulement en français. Anta Babacar Ngom, candidate à la présidence, s'explique.
Pour moi, l'industrialisation, c'est ma solution, c'est ma culture. Et c'est comme ça qu'on peut redynamiser l'économie sénégalaise en commençant par redynamiser le secteur primaire.
Le Sénégal passe pour un bon élève de la parité en politique. 44% des sièges de l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes, un record en Afrique de l'Ouest. Certaines femmes ont été candidates par le passé à la présidentielle. Anta Babacar Ngom, la seule femme dans la course à la présidence, s'est engagée à améliorer les conditions de travail et la formation des jeunes et en mettant l'accent sur les femmes.
Women in power. Les femmes au pouvoir n'oublieront pas d'aider réellement ces femmes. Et vous savez, une fois que l'on aura résolu les problèmes des jeunes, comme l'accès au travail, nous avons toujours dit que 50% des problèmes des femmes seraient résolus.
Pour Anta Babacar Ngom, au Sénégal, les femmes représentent la moitié de la population, mais elles vivent dans des conditions précaires et la plupart d'entre elles ne vont pas à l'école.
Au cours de mon premier mandat, les 5 premières années, je créerai 5 millions d'emplois pendant ces 5 années pour tous les jeunes, mais 2 millions d'entre eux seront consacrés aux femmes.
Anta Babacar Ngom espère que la large base d'électrices indécises pourra contribuer à faire pencher la balance en sa faveur lors des élections dimanche prochain.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Nous vous en parlions récemment, d'importantes coupures Internet ont affecté plusieurs pays africains à cause de câbles sous-marins défectueux d'après les opérateurs du continent. La Côte d'Ivoire étant la plus impactée, suivie du Libéria, du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso. La majorité du trafic Internet transite à travers le monde par des câbles de fibre optique sous-marin, dont l'un, long de 15 000 km, part du Portugal pour relier le Cap en Afrique du Sud. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec Ben Roberts, directeur chez Liquid Intelligent Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques en Afrique.
Ces câbles ont été construits en grand nombre au cours des 10 dernières années. Il y a 15 ans, il n'y avait qu'un seul câble en Afrique de l'Ouest, mais nous avons vu arriver un grand nombre de nouveaux câbles. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que les câbles, il s'agit aussi de la manière dont vous construisez votre réseau. Un certain nombre de pays touchés acheminaient leur trafic Internet directement vers l'Europe. Ils ne s'interconnectaient pas avec les pays voisins où se trouvent les points d'interconnexion Internet. Je pense que cela a aggravé la situation.
Et je pense que ça a aggravé l'effet.
Avec les travaux qui se sont déroulés cette semaine, tout le monde s'est empressé d'essayer d'obtenir de la capacité sur d'autres câbles pour que les réseaux soient opérationnels. Mais je pense que certains de ces pays, en particulier à l'Ouest, vont repenser la façon dont ils gèrent les réseaux. Le Nigeria va devenir, c'est déjà un grand centre de connectivité. Désormais, nous aurons un centre de connectivité beaucoup plus grand et nous verrons des changements se produire.
Qu'est-ce qui est fait finalement pour résoudre ce problème? Qu'en savons-nous?
Les câbles doivent être réparés, donc les navires qui iront les réparer seront mobilisés, prêts à appareiller. Il y en a un dans le port du Cap qui est un navire câblier, un navire de réparation de câbles en Afrique. Il y en a un à Londres, juste au large de la côte sud du Royaume-Uni et un autre au Moyen-Orient. Nous pensons que ce sont ces navires qui iront effectuer les réparations. Les navires de réparation des câbles sont très spécialisés. Ils ont des entrées de câbles des deux côtés du navire. Les câbles sont posés sur une sorte de jeu à l'arrière des navires de réparation des câbles. Ceux-ci doivent tirer le câble d'un côté du navire et le tirer à l'autre extrémité du câble. Et ils tirent les deux bouts au milieu dans une zone sèche. Ils soudent le câble.
À qui appartiennent ces câbles et qui est responsable des réparations?
Les câbles appartiennent à différentes personnes. Certains sont privés, d'autres appartiennent à des consortiums, des groupes de transporteurs et d'entreprises de télécommunications qui les possèdent ensemble. Il y a donc différentes structures de propriété des câbles. Et en les possédant ensemble, vous partagez les coûts.
Un mot sur l'importance de l'interconnectivité et de l'Internet en général pour l'Afrique, c'est votre domaine d'expertise.
C'est très important en ce moment. Ce que nous voyons, c'est l'émergence de nouvelles industries en Afrique grâce à l'Internet, à la combinaison de mobile money, qui est également en train de changer radicalement la donne. Et cette connectivité universelle, il est difficile d'imaginer ce que l'on deviendrait si l'on était privé d'Internet pendant quelques jours. Mais pour ce qui est de l'interconnectivité, nous constatons que les pays africains sont de plus en plus interconnectés les uns aux autres. Et nous voyons que cela va faciliter le commerce. Cela va permettre toutes sortes de choses. Cela va développer les économies des pays.
Ben Roberts, directeur de la technologie et de l'innovation chez Liquid Intelligent Technology.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Loin de la frontière américano-mexicaine, traversée par des milliers de migrants chaque jour et sujet de blocage politique entre démocrates et républicains, New York est confrontée à une crise humanitaire. Ce sont les mots d'Eric Adams, le maire de la mégapole américaine. Depuis 2022, la ville a pris en charge l'hébergement en urgence de milliers de personnes qui ont quitté le Venezuela, l'Équateur, la Colombie, la Russie, Haïti, mais aussi la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie notamment. Aaron Rannan nous en dit davantage dans ce reportage relaté par Gaby Dorsil.
Dans le quartier de Harlem à New York, un groupe de migrants ouest-africains se réunit dans un restaurant pour déguster des plats africains traditionnels. Cette enclave, connue sous le nom de Little Sénégal ou Petit Sénégal, accueille chaleureusement ces nouveaux arrivants dont beaucoup ont affronté des voyages ardus et des gangs criminels pour en arriver là. Mamadou est venu du Sénégal. Il a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué tant que son statut migratoire est en cours d'examen.
Je suis venu du Sénégal. Je suis allé au Maroc, en Espagne, au Salvador, au Nicaragua et du Nicaragua au Mexique. Mais il y avait beaucoup de trafic. Avant d'entrer dans le bus, ils vous arrêtent. Ils sont armés. Ils vous mettent un pistolet sur la tête. Ils vous demandent de l'argent et si vous n'en avez pas, ils vous prennent tout. C'est très difficile.
À leur arrivée aux États-Unis, beaucoup se heurtent à des conditions de vie difficiles et bien souvent à des attentes insatisfaites. Mamadou Dramé est le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique.
Tout le monde pense probablement, avant de venir en Amérique, que c'est l'endroit où il faut être. Ces migrants s'attendent à ce que l'Amérique améliore leur vie et la triste vérité est que lorsqu'ils arrivent, c'est une toute autre chose.
Ces migrants sont soumis à une période d'attente de 180 jours avant d'être autorisés à travailler, ce qui est une source d'incertitude pour beaucoup d'entre eux. Cet immigré sénégalais est ça m'est arrivé, a choisi de ne pas divulguer son nom alors qu'il cherche à obtenir un permis de travail.
Nous sommes ici pour vous parler de nos problèmes. Nous voulons juste travailler. Des emplois, tout simplement. Nous voulons des permis de travail pour pouvoir travailler et nous allons tous nous disperser.
Dans leur quête du rêve américain, ces migrants se retrouvent également pris dans le paysage politique, en particulier avec la position agressive de l'ancien président Donald Trump contre les migrants venus aux États-Unis illégalement. De nouveau, Mamadou Dramé.
La plupart d'entre eux sont préoccupés par ce que dit Trump, en particulier en parlant d'expulsion massive. Ils sont assez inquiets à ce sujet. Donc, ils sont certainement conscients de la situation politique aux États-Unis en ce moment.
Cordell Clear est une démocrate qui représente West Harlem au Sénat de l'État de New York. Elle estime que la question des migrants transcende les clivages politiques et que les autorités fédérales ont besoin d'accorder plus d'aide.
Je pense que nous devons nous unir et faire en sorte que des États comme New York, qui a absorbé tant de choses, obtiennent des fonds du gouvernement fédéral.
Alors que la saison électorale démarre et que les obstacles auxquels sont confrontés ces migrants nouvellement arrivés attirent l'attention des médias, ce qui demeure inébranlable, c'est leur aspiration à de meilleurs moyens de subsistance, en particulier avec le soutien de la communauté de Little Sénégal à New York.
Les analystes sont d'avis que les électeurs ici aux États-Unis doivent être vigilants face à la désinformation ayant pour objectif de perturber l'élection présidentielle de novembre. Veronica Balderas Iglesias de la VOA examine comment les Américains perçoivent la menace des opérations dites d'influence. Dans son reportage, elle fait également le point sur ce que le gouvernement et les organisations à but non lucratif font pour aider à contrer cette menace. Le récit est de Ginny Niwa.
Les services de renseignement américains travaillent sans relâche pour protéger les élections générales du 5 novembre 2024 de toute ingérence étrangère malveillante. Mais les tentatives de perturbation par le biais de la désinformation ont déjà lieu selon les analystes. Sean Minor est un analyste à Recorded Future, une entreprise privée dans le secteur du renseignement.
Pour tenter d'accroître la polarisation, de saper la confiance dans les institutions démocratiques américaines, et cela peut prendre la forme de simples messages sur les médias sociaux qui remettent en question le fonctionnement de la démocratie. Par exemple, si un acteur étranger estime qu'un certain candidat n'est pas bénéfique pour son rôle géopolitique, nous y voyons un effort visant à saper un tel candidat.
Les nouvelles technologies peuvent aider les mauvais acteurs à diffuser des mensonges plus facilement et plus rapidement, a averti le président de la commission sénatoriale du renseignement, le sénateur démocrate Mark Warner, lors d'une récente audition au Congrès.
Nous sommes confrontés à l'avènement de l'intelligence artificielle. L'IA apporte à grande échelle et à grande vitesse des outils pour interférer, désinformer. Je pense qu'il est essentiel que nous fassions un meilleur travail de manière bipartisane pour éduquer le public américain sur le fait que ce problème n'a pas disparu.
Les électeurs américains interrogés par la VOA ont déclaré être conscients de la menace, mais reconnaissent qu'il est difficile pour les individus de discerner la vérité des mensonges, en particulier sur les médias sociaux. Écoutons Kylan Weathers du Tennessee qui vit actuellement en Virginie.
Ils peuvent utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour, en fait, déformer ou modifier ce que la personne dit réellement.
Pour Sheila Debonis, c'est une tâche difficile.
C'est très difficile parce que souvent les auditeurs ne sont pas ceux qu'on appelle des penseurs critiques. Ils croient simplement ce qu'ils entendent sur une plateforme particulière.
Les opinions varient parmi les électeurs sur la manière de relever le défi. Joe Judge habite à Washington.
Je pense qu'il faut qu'il y ait une partie indépendante qui puisse vérifier ces informations. Parce que sinon, nous devons faire confiance à ces personnes ou à ces plateformes pour nous fournir les informations exactes.
Cole Thomas craint la censure.
Je ne suis pas sûr que l'on puisse faire quoi que ce soit à ce sujet sans censurer fortement l'Internet et d'autres choses de ce genre. Je pense donc qu'il incombe à chacun d'être un électeur informé.
Des efforts sont en cours pour donner aux électeurs les moyens de lutter contre la désinformation. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a déclaré à la VOA qu'elle avait conçu la page web Rumeurs contre réalité où l'on peut trouver des informations fiables sur les élections américaines. L'organisation à but non lucratif News Literacy Project propose également plusieurs ressources pour aider les électeurs à distinguer la réalité de la fiction.
Et voilà, le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 22 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.